R22, tout le monde, antenne restée étrangère.
Lucie est abonnée à une revue. Lucie est abonnée à une revue de géographie.
Il n'y a pas une page qui lui pèse plus qu'une autre. Et je ne veux pas dire que rien ne lui pèse, parce que c'est exactement le contraire.
Tu es l'épine dorsale du projet d'écriture. Par ta seule présence, tu enracines les mots qui s'étaient égarés dans mes pourparlers.
Il répartit les émotions, les sensations et les attachements nombreux de manière équitable sur la surface de la page. Ainsi, il n'y a pas de meilleur moment tant qu'on suit le cours de l'écrit. Et tu sens aussi qu'en t'écrivant, il te considère autant que l'enfant qu'il a été à sa mère et qu'il est indispensable de rester cet enfant.
Bonjour Barbara.
Bonjour Olivier.
Bienvenue dans le studio de la R22 Tout le Monde. On va discuter un moment ensemble pour ouvrir, pour accueillir même l'antenne Restée étranger de la R22. Ton nouveau projet que tu mènes notamment à la ménagerie de verre et dont on va discuter un peu les aspects, les détails, le lien aussi avec ce qu'on a fait nous ici à Casma avec toi par le passé. Donc Restée étranger déjà en fait c'est au-delà même du projet particulier que tu démarres aujourd'hui la ménagerie de verre, il y avait déjà un projet, il y a un site internet, il y a un espace d'écriture que tu réalises avec d'autres personnes.
C'est un projet qui est né en 2014 à l'automne au moment où je suis arrivée à Paris et j'ai rencontré une famille de tziganes qui vivaient en bas de chez moi. Et donc le projet est né là avec eux, avec Tinka, Aurel et leur fils George, avec Émile. Et un autre George, il y a beaucoup de George. Et à ce moment-là, j'ai rappelé Tanguy Nedelec et Barbara Coffey, avec qui j'avais travaillé au laboratoire d'Aubervilliers. Et on a commencé à errer dans les rues de Paris, à essayer de faire un lien entre une question un peu toujours irrésolue, entre un intérieur et un extérieur, qui existe aussi dans le travail, qui existe toujours pour moi. Et cette question de créer une passerelle entre cet intérieur et cet extérieur, où vivent Tinka, Aurel et pas mal de gens, a pris le nom de Rester point étranger. Et puis cette question a continué de construire un projet un peu plus large, qui est devenu une errance volontaire, et aussi une forme de désarroi choisie par moi. Dans le travail, c'est-à-dire je ne me pose plus la question du format. J'enlève les bords, les frontières de mon travail et de mon identité d'artiste, j'essaie de les défaire. Et c'est ce qui se passe en ce moment-là à Ménagerie de Verre. Donc c'est une résidence, c'est une performance, il n'y a pas de moment fort, c'est une permanence accueillie par Marie-Thérèse Allier. Voilà.
Cette question de permanence, elle est présente dans ton travail depuis un moment. Cette manière donc de défaire le moment du, même au-delà de l'événement, peut-être du spectacle, puisque tu viens au départ de la danse, donc du moment du plateau comme quelque chose qui serait le moment de l'art, pour justement ouvrir la question de l'art et de ces moments à quelque chose de plus vaste et de plus permanent.
C'est le quotidien de l'art qui m'intéresse et c'est aussi la banalité qui m'intéresse dans mon travail et la banalité de la figure de l'artiste et la possibilité à tout moment de la journée donc de pouvoir incarner une figure manquante à l'endroit où j'étais sollicitée de me rendre là à la ménagerie de verre qui est un endroit familier pour moi puisque je fréquente cet endroit depuis mes 18 ans en tant que danseuse. Donc là-bas, j'incarne peut-être, je ne sais pas, la chorégraphe, la danseuse et peut-être aussi une administratrice pour certains, une personne de l'accueil. C'est un peu une figure transitoire que j'incarne.
Et pourtant, en fait, comme fil conducteur de tout ça, il y a quand même une forme de permanence de l'écriture. Et l'écriture à la fois comme élément de sens, comme travail sur la langue, puisque tu écris en français, qui n'est pas ta langue maternelle au départ, on parlera de cette question de langue maternelle et d'entrée dans la langue, et puis aussi l'écriture comme objet plastique qui peut être déployé, exister dans l'espace et être un vrai propos aussi performatif.
J'utilise là pour le moment un jeu de cartes qui est en construction, qui est en cours d'écriture que je dispose au sol. Donc c'est une cartomancie et une cartographie à la fois. Daniel Larieux, un chorégraphe qui travaille en même temps, a parcouru avec moi cette cartographie que je disposais au sol le matin. Nous avons parlé de jardinage, de possibles dénominations de ces outils que je mets en partage. Et les cartes deviennent des pas de jardin en ce moment. C'est presque plus du jardinage que de l'installation, disons. Et j'utilise également des rouleaux de papier pour réécrire, pour retraverser physiquement et dans le temps et dans l'espace des passages, des textes, des pages que j'ai écrits les jours précédents. Et tout ça dans un espace commun, partagé, qui est celui pour les autres chorégraphes, les autres artistes qui sont à la ménagerie, c'est leur espace de repos ou de passage, c'est la cantine. Donc je ne suis pas une artiste protégée. Je n'ai aucun désir de protéger mon travail du passage, du piétinement. Je garde d'ailleurs les traces de pieds et de chaussures sur les cartes et les papiers que je dispose au sol, précieusement.
Il y a cette idée aussi de se retrouver dans un espace qui est censément le hors du travail, c'est-à-dire l'endroit où on n'est pas dans le lieu dédié, assigné au travail, que ce soit autant dans les lieux artistiques que dans un espace urbain dans lequel tu vas aussi t'intéresser aux gens qui, eux, vivent justement en dehors des lieux considérés comme habitables. Il y a là cette question de l'habitable, à mon avis, que questionne aussi ton travail, comment rendre habitables des endroits qui ne sont pas dédiés à ça, et là, comment travailler en dehors de l'espace classique du travail, quoi.
Ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir à quel endroit, où on attend l'artiste. Cette question, je me la pose. Je la pose aux artistes, je la pose aux organisateurs, aux directeurs des lieux. J'aimerais, enfin, dans mon fantasme, dans mon rêve, j'imagine vraiment une fente, une dilution géographique de mon travail, de mon identité aussi. Et je sais que c'est une utopie, mais c'est ça qui guide, qui motive tous mes choix et toutes ces formes que j'utilise en ce moment à la ménagerie, comme de disposer les cartes chaque jour au sol, à l'endroit où tout le monde passe, vraiment au plein milieu de l'espace. Ce choix est une question que je pose, mais que je me pose. Je ne cherche pas une réponse unique et définitive, je cherche des arguments, je cherche des conversations, je cherche à traverser, être traversé tout le temps.
Une question corollaire à ça, c'est alors comment après, à partir de cette espèce d'hypothèse justement très diluée et un peu comme ça radicale, une identité qui se déplace de l'identité assignée de l'artiste, qui quelque part fonctionne sans lieu, comment faire lieu pour un collectif, puisque dans Rester.étranger, il est question en particulier en fait de constituer une communauté qui va pas travailler simplement ensemble, mais dans des endroits en fait co-créés. Alors qu'est-ce que ça déplace dans ta pratique ? Parce qu'autant on peut voir comment elle s'installe lorsque c'est un geste justement, et c'est un de ces paradoxes singuliers d'un individu. Comment on fait pour trouver un terrain de négociation, d'organisation et une forme de vie collective dans une proposition comme celle-ci ?
La condition, c'est une condition forte pour moi. C'est le changement. C'est-à-dire que autant je m'impose un changement, autant j'accueille un changement qui vient de l'extérieur. Je ne voudrais pas nommer ce qui est l'épine dorsale de mon projet. Je ne voudrais même pas le nommer, en fait. On attendait tous quelque chose qui était annoncé. On nous disait qu'ils allaient arriver, qu'ils arrivaient, qu'ils étaient en route. Et puis, ils sont arrivés, ils sont là. Donc, il y a un changement en cours. Je me dis, ma vie change. J'ai l'impression que tout s'améliore. Et du coup, aussi le travail. Et donc, le visiteur qui va rencontrer mon travail par hasard, parce qu'il vient s'asseoir à côté de moi dans le lieu de repos, à la ménagerie, il va rentrer naturellement dans le travail à travers la groupe. C'est le changement. Les moments surgissent naturellement. J'ai besoin que les choses se passent naturellement, qu'elles ne soient pas annoncées, en fait. Et dans ce naturel de la conversation, je formule des choses importantes. Je donne des informations aussi parce que j'ai un interlocuteur. Donc tous ces visiteurs qui me rejoignent à la ménagerie, qui parfois se présentent, parfois pas, sont indispensables au travail. Donc le travail se fait avec eux. Et je n'ai pas l'impression de leur demander trop. Et j'ai l'impression aussi qu'ils me rejoignent dans cette question que je n'ai pas besoin de poser sur ce changement qui est en cours. Et j'ai l'impression que tout le monde parle de la même chose, parle de ce changement.
Une autre question peut-être aussi pour venir plus particulièrement sur ce travail-ci. Il introduit, même si je crois me rappeler que ça a toujours été présent, mais il introduit avec une intensité plus grande peut-être la question d'entrer dans des langues, cette question de langue maternelle et puis de langue d'accueil, donc entrer dans un espace qui n'a pas de bord. Et la langue, notamment la langue française, est un espace qui régit, qui contrôle, mais qui n'a pas de bord, qui a une forme justement de puissance, à la fois d'invisibilité et d'action extrêmement forte. Et je crois que c'est très particulier à la langue française, dont sa difficulté, son organisation. Et je pense aussi que dans la langue est inscrit un modèle de pensée et un modèle d'administration des gens et des corps. Cette langue qui est donc une langue en réalité pas très accueillante. Le français se laisse pas facilement parler autrement, et pourtant c'est un travail, nous, qu'on a essayé d'accompagner avec plusieurs projets ici. Donc c'était pour venir à cette idée, en tout cas, en plus d'un accueil d'un espace qui ne se dit pas et qui n'a pas de seuil, en quelque sorte, qui supprime la notion même de passage d'un chez-soi à un autre, un hors de chez-soi, il y a cette question de la pratique et de l'entrée dans la langue française qui se pose peut-être de manière plus forte avec ce projet Rester Point Étranger.
J'aimerais enregistrer de plusieurs manières ce passage. Aussi bien mon passage dans une nouvelle langue française que j'apprends tout en essayant de la transmettre. C'est-à-dire, je ne peux pas transmettre la langue française dans l'absolu, je peux transmettre mon français. Et en même temps, j'ai l'impression, en donnant des cours de français, on les appelle comme ça, on fait cours de français, je me rends compte que mon interlocuteur, mon élève, disons, enracine les mots qui avaient perdu leurs racines, qui étaient devenus juste des mots, qui n'avaient plus de contenu, de sens, qui avaient un son, mais qui n'avaient plus de racines. Ils étaient devenus des pourparlers, des arguments. Et donc, cette errance qui va dans deux sens, en fait. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a quelqu'un qui arrive dans la langue française, je retraverse, je remarche sur mes pas, et je redécouvre et j'ai l'impression de jardiner une langue qui n'est pas ma langue maternelle non plus. Et je le fais avec une certaine liberté justement parce que c'est une langue apprise et que je suis dans une fluctuation un peu en suspens toujours.
Tu comprends le mot « hospitalité » ?
Est-ce que demain tu veux venir en cours de français ?
Demain ?
Ouais. Mais demain, à quelle heure ?
Demain, 20h.
À 20h ?
Ouais.
Où ?
À la bibliothèque.
À la ?
Bibliothèque. Bibliothèque.
À la bibliothèque ?
Ouais.
Non, mais demain, tu as cours à Paris, avec Patricia ?
Ah.
Voilà,
demain, j'ai cours d'avance, cours avec Patricia, 18h, 19h, 17h.
Tu sais pas.
17h.
D'accord. Est-ce que demain, tu veux dîner avec Ivan, Virginie et Julie à Paris ?
Demain, à quelle heure ?
Demain, 20h, je pense.
Aujourd'hui, jour de la soupe du jour. Patates douces, courgettes, coco. Tu comprends le mot posture ? C'est la position de ton corps. Là, par exemple, tu te tiens en posture assise. Tes jambes sont croisées. Ton poignet droit est croisé sur le gauche. Verbe croiser. C'est quand tu fais une croix avec les jambes ou les poignets. Quand tu rencontres quelqu'un, Tu peux dire, j'ai croisé telle ou telle autre personne.
Et comment s'articule du coup la communauté au travail dans Rester étranger? Parce que là, du coup, il y a vraiment ta position et une forme de continuité dans les gestes que tu as pu faire par le passé, où là, tu les redéploies encore d'une nouvelle manière, mais qui garde une certaine continuité. Sauf que là, il y a quand même une communauté au travail sur ce projet, d'autres personnes. Et comment ça, voilà, ces différentes propositions s'agencent? Est-ce que c'est plusieurs propositions qui vont se cumuler comme des espèces de strates ou de couches de quelque chose pour créer un sédiment? Ou est-ce qu'il y a l'idée aussi de fabriquer ensemble un espace d'une pratique commune? C'est déjà dessiné? C'est quelque chose qui va venir, tu sais un peu ça?
Bien sûr, j'ai écrit un projet parce qu'il fallait l'écrire pour le présenter. Et je suis vraiment contraire au fait d'écrire les choses avant qu'elles ne apparaissent. En même temps, on amène tout en se servant d'une technique qu'on a appris donc en 2014, en côtoyant George, Emile, Tinka, qui est un peu une technique familiale. Donc c'est par le côtoiement, c'est par une forme d'exigence qui est plus liée à un amour réciproque, un amour de famille, je dirais. Et c'est dans un rapport de mère à enfant, d'enfant à sa mère, de couple, pour certains participants, qu'on fonctionne, ou par amitié. Il n'y a pas d'autres critères de présence ou d'absence au travail que ces critères-là, qui ne sont pas donc liés à une profession ou à ce qu'on pourrait appeler un milieu du travail. On est tous auteurs, on est tous appelés en tant qu'auteurs, et que les voix soient audibles ou pas, elles sont, pour moi, présentes. C'est-à-dire que là, je suis seule à parler, mais je ne me sens pas seul, je suis en famille. Et là, ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Je travaille vraiment à partir de ce tissu de relations.
Mais du coup, c'est intéressant parce qu'au-delà de sortir des espaces physiques, du moment en fait, où est rendu visible le travail de l'art, tu sors aussi, peut-être plus généralement, de la question du travail comme partition de la vie sociale, comme chose qui nous séparait de nos proches et des espaces d'affect, des espaces de loisirs, de côtoiement de ses amis, en considérant qu'il y a un espace qui peut être très continu, ce qui me semble être une position critique importante au moment où on parle beaucoup de ce que c'est que travailler, et au moment où aussi on met très largement en critique des sociétés dont on pense qu'elles travaillent moins, où elles apportent moins d'importance au travail, boire dans la bouche de certains, de sociétés un peu oisives, ce qui a été souvent l'image donnée à la Caraïbe, que je connais bien, et qui est peut-être une erreur d'interprétation quant à pouvoir considérer que la société positionne le travail autre part par rapport à la nécessité d'être ensemble, et pose la nécessité d'être ensemble, de passer du temps ensemble, comme socle de ce que c'est qu'une activité sociale. Et j'ai l'impression qu'en plus dans une ville comme Paris qui... Je ne dirais pas qu'elle est inhospitalière, mais elle n'est pas naturellement hospitalière. C'est une ville qui s'est durcie, qui est devenue, pour plein de raisons, y compris économique, une ville pas moins hospitalière que ce qu'elle a pu être, en tout cas. C'est intéressant de penser aussi des espaces dans lesquels peuvent se passer des choses qu'on ne nomme pas, mais qui sont des fabriques de moments, de terrains communs.
Mais aussi parce que si je veux travailler avec des individus libres, je ne peux pas poser de conditions, ne serait-ce que des conditions de présence. Nous avons convenu, par exemple, avec Héloïse Pierre-Emmanuel, qui est une des intervenantes, qu'il n'y aurait aucune obligation de présence à la ménagerie de verre. C'est-à-dire que c'est la permanence, c'est moi qui l'assure, puisque c'est un désir chez moi d'être en permanence. Mais pour les autres, il y a une forme d'ouverture. Ils sont bienvenus, ils ne sont jamais obligés. Est toujours bienvenue. Voilà, c'est ça la condition. Et il y a une réciprocité que eux manifestent ailleurs et de manière très personnelle, qui moi me convient complètement et qui m'apprend beaucoup sur toutes les manières possibles de vivre ensemble, de faire famille, de collaborer, de faire une société ensemble en fait.
C'est intéressant aussi sur un aspect dans ce que tu viens de dire de faire famille. On a fini l'année passée avec Donna Haraway et avec le film que lui a consacré Fabrizio Terranova. où justement elle redéfinit de manière assez radicale ce qu'elle entend par faire famille, making kin, ou en tout cas s'occuper d'eux. Ou, et elle pose moi, les bases d'une famille désirable, parce qu'on peut aussi dire que la famille n'est pas toujours une chose désirable, désirable en disant que voilà, il est temps maintenant qu'on fasse famille aussi entre adultes qui se choisissent mutuellement, qu'on fabrique en fait au-delà même d'une problématique, je dirais, de hétéronormative ou une question même de genre, simplement en fait l'idée qu'il va falloir faire famille au sens plus large que ce qui existe aujourd'hui pour plus être dans des problématiques de filiation sanguine, mais pour construire voilà une famille du soin. Notamment, elle parlait dans le film qui lui est consacré de l'idée d'adopter des adultes, de s'adopter mutuellement, donc qui va très au-delà, je trouve, de la question même du mariage ou du pax, qui la dépasse par ambition, parce que c'est pas du tout une question normative et juste de droits sociaux, mais juste aussi une question d'organisation sociale. Il faut que des gens s'adoptent et vivent ensemble comme des familles. J'ai l'impression que tu proposes quelque chose de ce type-là.
Ce n'est pas que moi qui le propose, c'est-à-dire qu'on me le propose. Et c'est quelque chose que j'observe aussi et qui me semble fonctionner mieux et plus naturellement que d'autres situations qui existent aujourd'hui en France. Donc, j'adopte aussi d'autres formes de proximité que je ne connaissais pas. Donc, là, c'est mon savoir-faire de danseuse qui rentre en jeu. C'est la partie qui danse le plus de ce projet, c'est l'observation de l'autre, sa façon d'arriver, de s'approcher, de rentrer dans mon espace et de l'habiter, avec des formes d'habitation que je ne connaissais pas, des formes d'amitié ou de relations donc familiales que je ne connaissais pas, des formes de discours, de conversation que je ne connaissais pas et que je découvre. Tout ça, ça fait partie d'un apprentissage qui est, je trouve, très agréable, en fait. Et je me demandais aussi ce matin, avant de venir, pourquoi, en écoutant la radio, justement, on parle beaucoup de ces nouvelles lois, frontières, pour les personnes qui arrivent, enfin, tout ça, je ne comprends pas à quel endroit on situe la peur, si c'est aux frontières, ou si c'est plus à l'intérieur du pays. C'est-à-dire, j'ai l'impression que la peur existe plus dans le discours qu'à la frontière, qu'à l'endroit géographique. Et je ne comprends pas cette peur, puisque de mon côté, en tout cas, et dans mon entourage, il y a quelque chose qui change en mieux, qui est bienvenu, et qui est que beaucoup appellent le bonheur. C'est ça qui est étonnant. Donc pourquoi la peur? Pourquoi parler de peur plutôt que de bonheur? Et ce n'est pas un bonheur de recevoir, parce qu'on ne fait pas que recevoir, on est reçu aussi par les personnes qui arrivent. Moi, je suis reçue, en fait. C'est moi qui suis, qui reçois l'hospitalité en ce moment, donc.
Je pense que c'est une problématique de mise en récit. C'est pourquoi, en fait, la peur a une si bonne presse, c'est qu'elle a une modalité de prise émotionnelle et de fabrique de récits qui fonctionne. Et on a un problème qui est simplissime, mais qui est extrêmement important. C'est notre incapacité à faire des mises en récit désirables, sérieuses, du bonheur. C'est-à-dire qu'on ne partage pas, en moyenne, dans une société comme celle de la France, la question du bonheur, qui devait être une question donc relativement personnelle et qui est toujours adressée en opposition à quelque chose. C'est-à-dire que ça ne se met pas en partage. On dit assez rarement qu'on va bien, on dit beaucoup qu'on va mal. Et que ce qu'on met en partage, c'est plutôt des angoisses ou des choses qui sont effectivement assez anxiogènes, parce que je pense que c'est des méthodes de récit, pouvoir raconter quelque chose dans lequel on est bien, est un effort à faire dans les régimes de discussion. Un régime de discussion courante, quand des gens se retrouvent quelque part, ils vont avoir du mal à partager des choses positives, très naturellement, par atavisme. C'est souvent, par exemple, l'acharnement sur une personne qui va fonctionner. Ce qui va consolider une communauté, c'est souvent dire le mal de celui qui n'est pas là, ou ça va être effectivement partager ses névroses, ses angoisses, parce que c'est aussi des modalités de récit et qu'il faut qu'on réapprenne. Moi, je trouve que je pensais à ça récemment sur un projet sur lequel je travaille. Quand on est enfant, on nous lit des contes qui sont des histoires hyper positives. Donc, on est élevé normalement par la plupart de nos parents dans une forme de positivité du récit. La mère ou le père raconte à l'enfant l'histoire qui l'emmène vers le sommeil et l'éloigne de ses angoisses, etc. Moi, je le fais, tout ça. Et puis après, au moment de la vie, c'est fini. Fin de l'histoire. Je te raconte plus de belles histoires. Je t'apporte plus de réconfort. T'es un adulte, donc maintenant, je partage avec moi mes angoisses, je partage avec toi mes problèmes. Alors que moi, je pense que, et je le pense très sérieusement, parce que je pense, par exemple, que le film qu'on a montré ici sur Donna Haraway, j'ai retrouvé, et j'y pensais pas du tout avant, mais je l'ai vu chez des personnes qui ont 60 ans, 50 ans, des femmes, des gens qui avaient un moment de bonheur, disent merci, ça, on avait besoin de quelque chose qui nous dise, qui nous donne une solution possible, qui n'est pas une recette, hein, qui est vraiment juste un récit positif du possible. Donc c'est pas non plus du positif au sens dire des choses qui sont très fantaisistes pour être gentil. Non, c'est une prise sur le réel, mais une prise sur le réel combative, mais positive, qui dit oui, mais on peut aussi faire quelque chose. Et moi, j'ai ressenti la nécessité impérieuse d'être en capacité de partager des récits positifs. Et je sais qu'on a tendance à le perdre dans des sociétés qui, comme elles nous agressent, nous mettent en position d'être dans une forme de négativité nous-mêmes, dans les propres récits de ce qu'on produit de nous. C'est aussi pour ça que dans un endroit ici comme Kiasma, moi j'ai eu le souci de ne pas non plus qu'on se laisse abattre pour des questions que matérielles et qu'on garde une puissance de récit positif du projet qu'on fait. Parce que c'est comme ça qu'on se sauve nous-mêmes, et quand on se sauve nous-mêmes, on arrive à sauver le projet. Sinon, on est envahi d'une double punition qui est à la fois des difficultés matérielles, mais aussi on est envahi par une négativité et on perd courage, en fait. Et ça, je pense que c'est un practice ou une écologie personnelle qu'il faut essayer de retrouver.
Il y a ça, et il y a aussi une forme de collaboration familiale à laquelle on est en train de s'essayer. Et qui pense est indispensable là aujourd'hui, vraiment à Paris. Donc j'ai cette certitude qu'on peut utiliser certaines architectures qu'on connaît comme l'architecture de la tragédie grecque pour résoudre ou dénouer des problèmes de société qui semblent insolubles. C'est la possibilité de devenir cœur. Comme dans la tragédie, quand le personnage principal a quelque chose d'insupportable à porter lui-même ou à dire, cette possibilité d'être le cœur et donc de prendre un peu du poids de l'autre sur soi pendant un moment, comme dans une transition, pour lui permettre même de dénouer, dépasser, déposer une part de cette tragédie et pour aller de l'avant. Et ce rôle du cœur, d'être un choriste, ça donne beaucoup de bonheur aussi, en fait. Porter pour un temps, en tout cas accepter de entendre, accepter de lire, accepter de dire, de prendre aussi la parole de l'autre, ou prendre son nom, ou donner son nom, comme dans une famille, en fait. On donne son nom à son enfant. Et d'accepter aussi, ce qui me donne beaucoup de bonheur, c'est de savoir qu'il y a une forme de filiation toujours possible. Je ne sais pas l'expliquer. Ce qui me donne le plus de bonheur, je ne sais pas l'expliquer.
Tes avant-bras sont posés sur la table. L'avant-bras est le premier tronçon de bras après le poignet, qui est une articulation. C'est rendre audibles les articulations, le goût, et les tronçons, le toucher, de la phrase.
L'odorat, la vue, l'ouïe, les cinq sens, voilà le monde des sensations. Froid, chaleur, douleur, les sensations passent. Les sentiments restent. Le verbe ressentir. La tristesse, c'est quand tu es triste. Le bonheur, c'est quand tu es heureux.